L'expédition qui partit à la fin d'août 1901 sous mes ordres comprenait 340 hommes. L'ennemi mit tout en œuvre pour nous arrêter. Il composa 7 colonnes, avec chacune 500 à 1000 hommes. Notre commando est revenu ici après avoir connu de grands dangers. Rapport de John Smuts, assistant commandant de l'Afrique du Sud pendant la guerre des Boers.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
L'Angleterre victorienne que j'évoquais la semaine dernière possède un empire mondial. Je voudrais donc consacrer cette chronique des fenêtres de l'histoire à la puissance de ce domaine colonial qui couvre environ 25% des terres du globe. Quelle est la situation aux alentours de 1850 ? En Asie, la Grande-Bretagne possède le port d'Aden, près de l'entrée de la mer Rouge, des territoires dans la péninsule malaise, l'important entrepôt de Hong Kong en Chine, et surtout l'Inde qui va devenir, je vais en parler à nouveau tout à l'heure, la perle de l'Empire. En Amérique, elle a perdu indéniablement les 13 colonies qui vont devenir les États-Unis, mais elle possède toujours une partie des Antilles, la Guyane anglaise et le Canada. En Australasie, elle est présente dans le Pacifique avec la Nouvelle-Zélande, l'Australie, et en Afrique, elle compte quelques comptoirs sur les côtes occidentales et à l'extrémité méridionale du continent avec les 2 colonies du Cap et du Natal. À partir de là, l'expansion britannique dans la deuxième moitié du XIXe siècle est indéniablement impressionnante. Elle est portée par des hommes politiques, je pense en particulier à Disraeli et à Chamberlain, mais également par des intellectuels, par des écrivains, que l'on songe tout simplement à Rudyard Kipling. La perle de cet empire, c'est l'Empire des Indes. En effet, l'Inde, la Grande-Bretagne, y est présente depuis le XVIIIe siècle. C'est un sujet d'orgueil, mais également un grand souci. Jusqu'aux années 1850, l'Inde était sous l'administration de la Compagnie des Indes, mais son régime administratif a été modifié à la suite d'une révolte de soldats indigènes, les Sipayes, qui éclata en 1857 dans la vallée du Gange. Pendant 2 ans, la Grande-Bretagne a dû ferrailler pour écraser cette mutinerie qui était devenue une véritable révolte nationale. À partir de là, l'Inde est devenue une colonie de la couronne, c'est-à-dire directement administrée depuis Londres par un ministère spécial et sur place, à Calcutta, par un vice-roi. Cette organisation est complétée en 1876 lorsque Disraeli fait proclamer la reine Victoria impératrice des Indes. Mais il y a néanmoins, dans la société indienne, toujours un élément et un ferment de résistance. Au début du XXe siècle, une minorité d'hindous riches, instruits, qui ont été souvent nourris à la culture britannique dans des universités anglaises, qui fondent un parti d'opposition, le Parti du Congrès, qui réclame, si ce n'est l'indépendance, on n'en est pas encore là, mais du moins un système d'autonomie qui permettrait d'avoir un statut de dominion. Au moment où éclate la Première Guerre mondiale, cette question n'est pas encore tranchée. Autre élément important de la stratégie impériale britannique, c'est l'Égypte. En 1869, a été inauguré le canal de Suez. Ce canal de Suez est absolument déterminant puisqu'il permet de passer directement de la Méditerranée à la mer Rouge et par là, à l'océan Indien et donc mener à l'Empire des Indes. Donc, maîtriser l'Égypte, c'est maîtriser une voie extrêmement vitale pour l'Empire britannique. Les Britanniques ont réussi en 1875 à racheter une partie des actions de la compagnie du canal de Suez et elle aboutit en 1882 à l'occupation militaire du territoire égyptien et à l'installation d'un résident anglais qui vise finalement à vérifier la politique de l'Égypte qui était théoriquement province ottomane mais en fait qui était devenue indépendante de Constantinople. L'Égypte est donc un joyau là aussi de la stratégie britannique et les Britanniques y imposèrent progressivement des réformes, mais en même temps une surveillance extrêmement précise. L'autre continent, c'est le continent noir où l'on voit un progrès de l'impérialisme britannique. C'est le moment d'ailleurs où la France aussi se jette dans une très grande politique coloniale sous le Second Empire et sous la Troisième République. En fait, la stratégie anglaise vise à relayer au nord de l'Afrique l'Égypte et le Soudan, jusqu'au sud vers les comptoirs de l'Afrique du Sud. Et en même temps, essayer de trouver des lieux importants qui permettent de contrôler l'ensemble de la route nord-sud dans tout le continent africain. C'est pour cela que la Grande-Bretagne, à partir des années 1870, contrôle le Soudan anglo-égyptien, l'Afrique orientale anglaise, et que après la Première Guerre mondiale, il y aura un partage des dépouilles des colonies allemandes et que la Grande-Bretagne veillera à récupérer une partie des colonies allemandes qui lui permettront donc de faire une seule et même route britannique entre le nord et le sud de l'Afrique. Mais cela ne va pas sans résistance. D'abord, il faut bien voir qu'il y a des résistances au Soudan, où il y a des résistances liées à l'islam, et un islamisme national fait que la Grande-Bretagne doit mener, dans les années 1880, de durs combats. D'autre part, il y a également la résistance des tribus zoulous, ces tribus zoulous qui vont, là aussi, dans les années 1870-1880, résister à l'expansion britannique. Certes, au final, la Grande-Bretagne réussit à réduire ses résistances, mais il ne faut pas les négliger. Et puis, il y a la guerre des bourgs, le conflit entre les anciens descendants des colons hollandais en Afrique du Sud et la Grande-Bretagne. Cette guerre des bourgs, qui a été extrêmement difficile, extrêmement meurtrière, a contraint l'Angleterre à aligner 450 000 hommes en Afrique du Sud. Il faut dire que les bourgs connaissent admirablement le pays, ce sont des tireurs exercés, ils avaient des chevaux qui permettaient de rendre leurs troupes finalement extrêmement rapides, et prête à intervenir dans bien des points du pays. Et les Anglais, eux, par contre, manquaient de cavalerie. Donc il a fallu 3 ans entre 1899 et 1902 pour réduire une résistance qui s'était avérée extrêmement coriace. Les Britanniques, d'ailleurs, n'ont pas lésiné sur les moyens parce qu'ils ont créé ce que l'on peut appeler des camps de concentration pour interner des milliers de bourgs dans ces zones de surveillance. Ceci a amené d'ailleurs la Grande-Bretagne tout au long du XIXe siècle et au début du XXe à réfléchir sur la manière d'administrer l'Empire. C'est à cela que je vous propose maintenant de réfléchir. Premier élément de réflexion, c'est le système des dominions. En effet, au XIXe siècle et au début du XXe siècle, la Grande-Bretagne va accorder des statuts d'autonomie à des grands territoires de son empire. C'est le cas effectivement à propos du Canada, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. En effet, ce sont des colonies que l'on peut qualifier finalement de blanches, c'est-à-dire où il y a une très forte proportion de migrants qui sont venus d'Europe et qui domine les territoires. Ce qui fait donc que, en 1867, le Parlement britannique autorisa les provinces canadiennes, qui à l'époque étaient au nombre de 4, à bénéficier d'une autonomie et d'un statut de dominion. De même, ce fut le cas pour l'Australie, puisque en 1901, un système équivalent au Canada fut accordé à l'Australie, elle-même extrêmement peuplée de personnes issues de l'immigration européenne. Mais évidemment, ça pose aussi, et aujourd'hui la question est toujours posée, du statut qu'il fallait accorder aux populations indigènes. Enfin, la Nouvelle-Zélande reçoit également, en 1907, le statut de Dominion. D'autre part, il y a également, depuis Londres, toute une administration qui se met en place. Des conférences coloniales ont été organisées à partir de 1887 autour du gouvernement pour faire le point sur ce qu'était l'Empire britannique à environ tous les deux ans, le rythme de ces réunions. Elles n'eurent pas, au demeurant, de très grands effets. On créa également en 1907 un comité de défense nationale et un état-major impérial qui était chargé de coordonner les efforts en cas de conflit. Or, c'est bien là que l'on vit en 1914 l'utilité de l'Empire, parce que face à une Allemagne qui avait vu sa puissance croître dans les 30 dernières années, eh bien la Grande-Bretagne put aborder le premier conflit mondial avec un système impérial qui lui permettait d'être présente sur les 4 continents, voire même les 5 continents, et donc d'avoir une puissance mondiale qui lui permettait d'aborder la Première Guerre mondiale dans des conditions, si ce n'est favorables, mais disons indéniablement lui permettant de tenir l'effort que demanda le conflit pendant 4 ans.